Bonjour, il est arrivé, le nouveau numéro de 12 degrés 5, cette revue unique et singulière consacrée au vin. C'est l'avantage d'un trimestriel, c'est qu'il se laisse un peu désirer. Maquette impeccable, photos léchées, textes inspirés et au centre du propos, toujours la rencontre et la découverte. Des vins, des régions, des cépages, des hommes et des femmes passionnés. Tout ce qu'on aime au fond dans la terre à boire. Par exemple, la belle histoire de l'appellation Bellay sur les hauteurs de Nice qui résiste à la pression immobilière. Par exemple, ce superbe portrait de Julien Zernotte au domaine du Pas de l'Escalette dans le Languedoc. Un nom que nous avons déjà croisé puisqu'il a assuré la transition au domaine Henri Pelé dans la Loire entre un père vigneron parti trop tôt et un fils pas encore prêt. C'est une histoire racontée dans notre bonus Loire de mars. Rencontre encore avec la famille Arena, Antoine le père qui fut notre invité à l'épisode 15 et ses deux fils qui prennent la relève à Patrimonio. Allez, je me permets une petite critique. Pourquoi ces mines sombres et graves sur les photos qui reflètent si peu le bonhomme, accueillant et chaleureux? Une manière de jouer sur la mythologie du parrain corse? Un peu dommage à mes yeux, mais soyons honnêtes, l'ensemble est d'une si grande qualité, se lie avec tant de plaisir qu'on pardonne sans peine cette petite facilité. Bref, le numéro 4 de 12 degrés 5 est paru, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Allez-y sans crainte, vous y trouverez une belle matière pour nourrir votre œnophilie ou tout simplement votre goût pour les belles histoires humaines. Ce 27e épisode s'intitule « Les vins libres » de Christian Binaire. Bienvenue dans la terre à boire. Et nous revoilà pour une nouvelle étape sur cette route des vins d'Alsace. Après avoir dégusté un délicieux Pinot Gris qui était, je dois le dire, une vraie découverte, en tout cas pour moi, un vin vraiment très élégant de la maison Boesch. Voilà, on a changé de couleur de Pinot, on est passé sur un Pinot Noir qu'on va bientôt déguster. Et pour le déguster, on a nos chroniqueurs autour de la table. Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Hélène, bonsoir, du blog My Little Big Wine et qui, accessoirement, a un vrai métier. Elle s'occupe de vin également dans son vrai métier. Elle est responsable marketing de la maison Twill, The Wine I Love, qui est un site internet, une application de la Wine Tech. On a eu le plaisir de recevoir son président, fondateur Erwan de Barry, dans le cadre d'un hors-série qui sera bientôt diffusé. Pinot Noir, Alsace. Il y a un nom qui est venu assez vite dans la liste d'un vigneron célèbre pour ses vins. Bonsoir Christian Binaire.
Bonsoir, bonsoir Romain.
Nous sommes ravis de vous avoir. On a fait un tout petit tour dans l'épisode précédent avec un blogueur alsacien, strasbourgeois dans les vignes, Adrien, qui nous a confirmé que vous étiez la bonne personne à appeler pour parler de Pinot Noir. Je vais laisser Patrice nous présenter un petit peu de quoi il s'agit.
Alors en quelques mots, et puis après on échangera avec Christian Binaire, on est sur... et puis il faudra me corriger si j'ai des bêtises, hein, mais sur un domaine qui est créé en 1770 à Meurgevire, autant que vos recherches ont permis de remonter dans le temps. Et votre père, Joseph, a commencé, je dirais, à travailler la vigne de manière raisonnée, voire plus. Et puis bah, vous, dans les années 2000, vous avez repris en main le domaine, qui fait aujourd'hui à peu près 9 hectares, je crois, un peu plus d'un hectare, 1,2 hectare en Pinot Noir, le reste plutôt en blanc, et avec une vraie approche biodynamique, pour pas dire nature. Voilà, alors moi, Christian Binaire, je connaissais pas, et puis j'ai eu l'occasion il y a un an ou deux ans d'aller dans un resto qui s'appelle Dalia, qui est un restaurant gastronomique italien qui est à Paris, près du métro Couronne, et puis ben, je mangeais un bon plat italien, et Le restaurateur m'a conseillé un Pinot Noir du domaine Binaire que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça génial, donc je me suis dit, bah voilà, j'ai fait le rapprochement. Quand on s'est dit, on va parler d'Alsace, bah faut qu'on parle un peu de Pinot Noir parce que c'est des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Et j'ai pensé au domaine Binaire. Donc voilà comment on en est arrivé là, précisément. Voilà, alors je crois que votre... votre site est assez bien fait, on apprend plein de choses, et je vais résumer un petit peu le domaine. Enfin, il y a une phrase qui me paraît intéressante qui dit c'est mieux d'en faire moins mais de faire mieux. Est-ce que c'est vraiment la motto, le slogan du domaine?
Bah écoutez, oui, ça, c'est vrai que la base de pour faire un joli vin qui n'a pas besoin d'artifice pour être bon et pour tenir dans le temps, c'est de ménager la vigne et donc d'en faire moins en termes de volume et surtout c'est que après on peut vraiment s'affranchir de plein de techniques et de plein de béquilles que la technologie a su mettre en place pour que les vins soient quand même bons lorsqu'ils ont un peu moins de qualité intrinsèque. Et du coup, on se rend compte qu'on arrive à une vraie authenticité du produit où on peut dire qu'il n'y a que du raisin dedans. Et je pense qu'il y a une émotion, une vibration qui naît à ce moment-là parce qu'on a justement supprimé plein de choses qui deviennent tout simplement inutiles. Et voilà, moi je trouve ça assez passionnant d'arriver au cœur du terroir, au cœur de ce que la vigne est capable de nous donner, parce que on en fait moins, mais et du coup c'est meilleur. Après, évidemment, pour que ce soit bien fait, ça demande quand même un peu d'expérience, un peu de technicité, du sérieux, parce que c'est pas parce qu'on en fait moins qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, au contraire. Travailler sans filet, c'est un exercice de style difficile, mais quand on y arrive, on est assez content.
Ouais, donc vous avez repris le domaine quand, dans le début des années 2000, milieu des années 2000?
Oui, c'est ça, ouais, 99-2000. J'ai repris le domaine avec une chance, c'est que mon père avait refusé d'aller dans la chimie qui était à l'époque quand même un vrai confort de travail et une vraie amélioration pour cette génération-là. Mais il avait quand même compris qu'il y avait un truc qui clochait et donc j'ai la chance d'avoir des sols qui n'ont pas été abîmés au niveau du potentiel microbiologique et c'est quand même plutôt un bon capital que l'on a aujourd'hui. Et donc après, la biodynamie a permis de rapporter quelque chose en plus qu'une simple culture bio et de par des rencontres dans ces mêmes années-là, je me suis rapidement frotté aux vinifications sans intrants, entre autres sans soufre. Et voilà. Et donc aujourd'hui, depuis 99, mes pinots noirs ne voient rien du tout d'autre que du raisin et pas du tout de filtration et pas du tout de soufre et ni aucun intrant. Et puis ça fonctionne bien. La preuve, force est de constater, c'est que les gens l'apprécient vu.
Et que c'est dur à trouver. c'est dur à trouver. Donc c'est bon signe.
C'est un peu dur à trouver. Ouais, et puis on a un peu de mal à suivre au niveau de la production. Et voilà, j'en suis ravi parce que je pense que toute l'énergie que l'on donne dans le travail des vignes et dans aussi la prise de risque de travailler un peu sans filet. Ça demande quand même du temps et c'est aussi autant moins d'énergie à donner à commercialiser. Et je pense que c'est aussi agréable en tant que paysan de devoir de sentir ça, alors que sous des produits différents ou très très calibrés, ma foi, il y a vraiment un besoin de marketing, un besoin d'une grosse énergie commerciale. Donc les choses sont un peu inversées. Et moi, je me sens plus à l'aise dans cette fonction-là, quoi.
Et c'était qui les inspirateurs? Parce que c'est quoi? C'était Lapierre, c'était Auvernois. Il y en a eu d'autres, ceux qui vous ont les rencontres dont vous parlez.
Oui, les rencontres. Au niveau des vinifications sans intrants, oui, c'était Marcel Lapierre que j'ai rencontré en 98, Pierre Auvernois, Thierry Puzla, Alain Castex, enfin voilà, tous des vignerons un peu précurseurs qui ont défriché tout ça. Et puis aussi dans la notion de vin de terroir d'aller au plus profond des choses, Jean-Michel Dice, par exemple, en Alsace, qui m'a beaucoup inspiré pour vraiment essayer d'exprimer ce qu'un terroir donne et pas seulement faire un vin sans intrants parce que c'est un bon canon de soif, il y a aussi une vraie vérité de ce que le lieu peut donner. Donc voilà, et puis beaucoup de conneries, beaucoup de boulettes, beaucoup de tâtonnements. Mais
Auvernois, il disait qu'il était rentré en religion, lui, il faisait des expérimentations tout le temps et passait sa vie dans les vignes et dans le chai, quoi, pour expérimenter.
Pierre Auvernois, qui a été notre invité.
D'accord, ouais, oui, c'est vrai qu'on est tout le temps en remise en question, parce qu'on sait aussi que la nature est toujours plus forte que nous et qu'il faut rester humble par rapport à tout ça, et que le contexte change, le climat change, et donc on est toujours en recherche, et c'est ça qui rend notre métier passionnant, c'est que rien n'est acquis et qu'on sait en tous les cas pas ce que le millésime 2018 va nous donner, et c'est ça que j'aime, c'est une aventure en permanence et des réajustements et des paris sur des choix techniques qu'on va faire une année parce qu'on pense que probablement l'été sera comme ci ou comme ça, puis après soit le feeling était bon et le ressenti était bon, soit on se trompe un peu, mais j'aime beaucoup ça, ça me plaît.
Et on disait un peu que l'Alsace, en tout cas dans son image générale par rapport aux autres vignobles de France, souffrait peut-être un peu de l'appellation sous forme de cépage, et qu'il y avait quand même une tendance d'approche un peu plus terroir, de mettre en avant les terroirs. Donc je crois que c'est ce que vous faites, et c'est quoi l'idée derrière, c'est de changer carrément le nom pour mettre en avant les terroirs. C'est quoi votre approche à vous là-dessus?
Oui, bah c'est un passage obligatoire. C'est vrai qu'on a raconté pendant 60 ans que en Alsace il y a du Riesling sec et du Gewürz sucré et du Pinot gris charpenté. Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur le terroir, tout ça vole un peu en éclats. Et donc, évidemment, on a des noms compliqués. On arrive un peu tard par rapport à d'autres vignobles comme la Bourgogne qui travaillent ça depuis très longtemps. Mais je pense que l'Alsace a une vraie carte à jouer parce que c'est le vignoble qui a le plus de diversité de terroirs en termes de géologie, de climat, de vallée au monde, selon certains bouquins qui ont travaillé là-dessus récemment. Et je crois qu'on a une vraie carte qui est un peu à la fois déconcertante probablement pour certains et en même temps très passionnante pour ceux qui veulent fouiller. La carte de la diversité dans justement toutes les expressions que le terroir peut apporter, et derrière, dans la mesure où l'homme fait partie de l'expression du terroir aussi, ses convictions, sa personnalité. Et je pense que l'Alsace de demain pourra ressembler à quelque chose justement de très complexe, et que les gens qui ont une ouverture d'esprit vont aller piocher, chercher, parce que dans chaque vallée, dans chaque racoin, il y aura des vins différents. Parce que manifestement, dire que le Riesling il doit être sec, c'est compliqué, parce que c'est pas possible, quoi. Ou alors, on est obligé d'avoir une technicité tellement forte qu'on va exprimer un cépage, mais on va être obligé d'empêcher le terroir de s'exprimer. Et je trouve ça assez frustrant, parce que dans ce cas-là, plantons du Riesling n'importe où dans le monde où le climat se prête à peu près, et ce sera du Riesling. Et
qu'est-ce que notre dénaturer le cépage quand même. Plus.
Donc voilà, donc pour moi le cépage c'est un vecteur, c'est un outil, c'est un moyen d'exprimer un vin, mais si son identité est le seul truc, le seul moyen de le reconnaître, je trouve ça un peu triste et un peu unilatéral, quoi.
Si je comprends bien, pour faire grandir un petit peu le vignoble alsacien, les vins alsaciens et leur reconnaissance par le monde, il faut s'affranchir un peu de ce vieux code qui consiste à dire qu'en Alsace, on identifie les vins à leur cépage, comme on le fait dans pas mal de pays. Hein, et vous, si j'ai bien lu aussi ce qui est exprimé dans le site, vous souhaitez qu'on se rapproche plus de l'approche qui fait foi dans le reste de la France, des vignobles, c'est l'approche des terroirs, et qu'on s'affranchisse un peu de cette étiquette du cépage qui ne dit pas tout, finalement.
Oui. Alors après, en Alsace, on n'a pas que des grands terroirs aussi. Hein. Il y a des parcelles sur des terroirs plus simples ou faire un Riesling sympathique qui va être joli et bien fait malgré tout, hein, ça n'empêche pas, peut être intéressant. Mais je pense que dès qu'il y a un terroir qui a vraiment quelque chose à exprimer, dès qu'on va dans les coteaux, dès qu'on est sur un endroit un peu singulier, je crois que vraiment, c'est assez réducteur de dire que vendre le produit et de proposer le produit que sur un nom de cépage, quoi. Donc pour moi, il y a une vraie carte à jouer. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience dans le vignoble grâce à une myriade de vignerons qui aujourd'hui travaillent beaucoup mieux leurs vignes et se rendent compte que sous nos pieds, on a vraiment quelque chose d'assez magique et qu'on a peut-être besoin de structurer un petit peu et qu'on a un gros travail de communication parce qu'évidemment, notre histoire germanique fait que nos noms sont un peu barbares, mais au bout du rouleau, ce qui est dans les bouteilles, c'est vraiment pas barbare et ça a vraiment quelque chose
c'est
d'assez...
civilisé, oui.
Oui, civilisé et singulier et hyper passionnant, quoi.
Et là, justement, on est en train de boire un de vos pinots noirs, donc la cuvée Béatrice. Vous avez trois cuvées, le pinot noir, je dirais, entre guillemets, hein, de base. La
cuvée qui est Béatrice en rupture.
Et la cuvée Excellence, ouais, c'est ça. Vous avez trois lectures, on va dire, trois cuvées pour le pinot noir, c'est ça?
Oui, oui.
Et c'est alors, quoi les différences entre les trois, déjà?
Alors, le pinot noir de base... On peut dire ça comme ça. C'est un assemblage de différentes parcelles, dont des parcelles plus jeunes, des parcelles aussi que j'ai reprises depuis que je me suis installé et qui n'ont pas eu la chance toujours d'avoir une histoire aussi merveilleuse que la cuvée Béatrice, que mon père a plantée quand il était jeune et donc qui n'ont jamais vécu la chimie, qui n'ont jamais rien vécu de désagréable. Donc du coup, où je pense qu'il y a vraiment une magie en plus par la vie du sol qui s'exprime. Donc voilà, la cuvée Béatrice, c'est que des vignes qui sont anciennes et en contrebas de notre grand cru Käferkopf, donc qui bénéficie d'un super beau terroir. Alors j'aurais préféré pouvoir mettre un nom de terroir, un nom de lieu-dit, mais c'est malheureusement un regroupement de différentes parcelles sur des lieux-dits différents, mais qui ont quand même un point commun, c'est d'être dans le contrebas de notre grand cru et où il y a une vraie expression, une vraie singularité qui en ressort. C'est vrai que demain, ça me plairait peut-être plus de pouvoir le vendre sous le rouge de la Merchuire ou je sais pas, ou un nom de lieu-dit X ou Y. Mmh. Donc là, il y a aussi tout ce travail à faire, de donner des noms à nos vins. Aujourd'hui, l'histoire a voulu que ce soit le nom de ma sœur qui porte que porte cette cuvée, ce qui fait une facilité commerciale, mais à quelque part ça me gêne un peu aussi parce que j'aurais préféré pouvoir marquer Xberg ou je sais pas quoi. Mmh. Donc voilà.
La cuvée Excellence, c'est quoi?
Alors la cuvée Excellence, ça c'est plutôt un exercice de style rigolo que j'aime bien faire dans les années où il fait chaud. Pour moi, il y a une espèce de on s'alarme tous quand il fait chaud. Ah, il faut faire attention, les vins vont être mous, c'est trop mûr, réchauffement climatique et ainsi de suite. Et du coup, moi, j'avais envie de faire un pied de nez à tout ça et de dire, bah, je vais encore manger plus tard, encore plus mûr. Par contre, on va assumer la maturité forte de ces pinots noirs en faisant des élevages longs, en gérant les macérations autrement, en commercialisant le vin plus tard, parce que on assume qui on est et on assume le climat que l'on vit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, je vois bien que les gens ils disent, ah mince, on n'a pas de chance, il fait trop chaud ou il fait trop ci, il fait pas assez ça. Et donc on essaye toujours de rectifier. Alors que moi j'aime bien dire bon ben, ok, on a une situation, assumons-la et faisons, allons dans le sens de ce que la nature nous invite à vivre au lieu de vouloir toujours la rectifier et assumons-le en gérant les choses autrement. Par exemple, donc aujourd'hui, enfin, on sait très bien que des vins avec des grosses matières, il faut les élever plus longtemps parce que le temps d'élevage patinera tout ça, intégrera la puissance dans le vin et on retrouvera beaucoup plus d'élégance comme ça que de vendanger tôt, pas mûr, où on aura quelque chose qui ne sera pas abouti, quoi. Voilà, donc la cuvée Excellence, c'est un peu cet exercice de style où dans les millésimes très chauds et solaires, je vais encore vendanger plus tard pour voir un peu où ouais, ça nous mène, quoi. Voilà.
Et ça vous donne quoi? Vous êtes satisfait, content du résultat ou c'est une curiosité ou voilà, vous faites un vin qui est unique?
Bah, disons, moi je suis plutôt très content parce que je vois que les gens qui le dégustent, parfois ils s'amusent à le mettre au milieu de dégustation d'autres grands vins de pinot noir, entre autres de Bourgogne, et ils disent ça roule, ça s'intègre tout à fait. Donc moi je trouve que du coup je suis plutôt très content du résultat Et ouais, je pense que voilà, encore écouter ce que le millésime nous donne et faire avec, c'est mieux que de vouloir rectifier ce que la nature veut nous donner spontanément, quoi.
Ça peut être un débat, mais est-ce qu'il y a un impact millésime fort en Alsace, ou est-ce que c'est un peu lissé, on va dire, par les arrières-saisons un peu chaudes et l'humidité, on va dire, ou la pluviométrie relativement faible, où il y a vraiment un impact millésime?
Disons, l'impact millésime, il n'est pas si énorme que ça. Je me rends compte que plus je travaille, mieux mes vignes se portent, et moins l'impact de millésime est fort. Ah. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un effet tampon énorme apporté par le bien-être de ma vigne, où elle encaisse les coups de climat quand même de plus en plus capricieux. Et franchement, je trouve ça, j'en reste assez admiratif. Néanmoins, on se rend compte quand même que globalement, on va avoir dans les grandes lignes des années chaudes, des années fraîches. Alors c'est assez rigolo parce que des années fraîches, on en a quand même beaucoup, malgré cette histoire de réchauffement climatique. Et donc on a l'alsacianité de nos vins avec des belles fraîcheurs et des belles tensions. On retrouvera facilement 17, 16, 14, 13. Donc donc on voit bien que les derniers millésimes, il y en a eu beaucoup. Après, oui, il y a eu 2015, il y a eu 2011 qui sont des millésimes plus chauds. Mais donc oui, où la structure des vins est un petit peu différente, c'est sûr. Mais moi, ça me dérange pas outre mesure.
Donc là, la cuvée Béatrice 2016, on est en train de le déguster. Hein, donc oui. On voit bien qu'il est non filtré déjà, parce qu'on est pas sur un vin limpide, on est sur un vin trouble.
On a un fruit qui est
non sulfité non plus. Ouais.
On a un fruit qui est hyper présent. J'ai l'impression de croquer dans un raisin.
Bah oui, ça c'est toujours un peu rigolo parce que si un vin ne sent pas le raisin, on a quand même un problème.
C'est naturel de le dire, mais c'est pas toujours aussi, bah, aussi
ça
franc.
Ça peut être fraise tagada des fois. Faut pas
attention. Ouais, moi, j'ai un vin qui sentait la pomme, donc c'est particulier. Je te demande ce que tu vois.
Je trouve très fumé.
C'est un peu un béaba, mais on en est tellement arrivé à des artifices avec la barrique et je ne sais trop quoi comme technique que du coup, ça finissait par plus en sentir le raisin. Mais oui, merci, mais c'est vrai que les bourguignons, ils disent un pinot noir, quand il est bien mûr, il pinote, il sent la cerise, il sent... Et normalement, enfin, c'est ce que vous... Il y a des chances que vous trouviez ça
oui. J'allais côté cerise, griotte, peut-être un peu kirsch à la fin, mais un peu fumé aussi.
Il y a un petit côté fumé aussi, on trouve un petit côté fumé. Dans le...
Moi, je le trouve très fumé. Enfin, après le fruit, il y a cette impression de...
Ouais, complètement, je suis d'accord.
C'est un peu la caractéristique des vins de la Merschuire et d'ailleurs du Grand Cru qui est juste au-dessus de ces vignes-là. On a ce côté fumé épicé qu'on peut retrouver. Ouais, donc ça ne m'étonne pas trop. Donc c'est plutôt chouette.
Oui, on trouve ça plutôt chouette. On vous confirme.
On confirme que c'est un vin très agréable. Parmi vos différents cépages, on a rencontré des vignerons qui avaient un truc particulier avec un cépage. Est-ce que vous, le pinot noir, c'est vraiment le cépage qui vous fait vibrer, si je peux employer ce terme-là, ou vous avez un égal plaisir à travailler le Gewürztraminer, le Riesling, ou ces rouges d'Alsace qui sont quand même minoritaires en nombre, mais pas en qualité?
Bah, disons, le pinot noir, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment un très joli cépage rouge. Alors là, malheureusement, on n'en a qu'un en Alsace, donc... On n'a pas trop de moyens de comparer.
On peut pas s'éclater sur le Syrah.
Mais c'est sûr que j'aime beaucoup les pinots noirs alsaciens, bourguignons, mais aussi de la Loire, de d'Auvergne. C'est tous des endroits où le pinot noir s'exprime très bien et c'est vraiment un cépage que j'aime beaucoup par sa finesse, par son élégance. C'est pas un cépage puissant et qui donnera beaucoup de matière, mais quelque chose de plutôt très fin et élégant. Mais après, je reste quand même un producteur essentiellement blanc. Et pour moi, les Riesling, c'est quand même des vins magnifiques. Je veux dire, je suis quand même assez passionné par ce cépage-là. Même si, encore une fois, je me rends compte qu'en assemblant, comme sur des cuvées comme le Côte d'Amerchuire ou le Grand Cru Kefokov, où le Riesling est présent, mais il y a, le Gewürztraminer, le Pinot Gris, le Muscat qui viennent apporter leur facette. Je trouve que du coup, ça donne un côté multidimensionnel dans le vin par la présence de différents cépages. Et du coup, on arrive vraiment à une grande complexité dans les vins. Mais voilà, pour moi, la colonne vertébrale d'un grand Alsace, si c'est à base de Riesling, c'est quand même classe, quoi.
Ok.
Ce travail en assemblage, c'est une tendance qu'on pourrait souligner aussi. Un peu moins de monocépage, un peu plus d'assemblage dans les vins d'Alsace.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup. C'est un peu une tendance qui s'explique par le fait qu'au bout d'un moment, quand notre travail et la biodynamie et les vinifications sans intrants vont aider à ça, vont faire que le cépage va être moins présent dans le goût du vin. Au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi bon s'enquiquiner la vie, avoir des gammes à rallonge et 36 vins différents, alors que finalement, l'écart entre le Riesling d'un terroir et le Pinot Gris d'un terroir est tellement proche. Mettons-les ensemble et faisons un seul grand vin qui exprimera le lieu. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai cheminé depuis 20 ans, j'ai bien remarqué que mes différences de goût entre les cépages ont diminué et par contre les différences de goût entre les terroirs ont augmenté. Parfois, pour des terroirs qui sont relativement proches mais qui sont sur des géologies différentes ou tout simplement un qui est plus ventilé que l'autre et donc où on a des températures différentes. Et ça, je trouve ça assez magique, quoi. Et donc, du coup, parler de quelque chose qui ne se ressent plus dans la bouteille en marquant en grand Riesling et en petit le nom du terroir, on finit par ne plus exprimer, enfin, c'est presque de la, comment dirais-je, c'est peut-être de la, presque de la publicité mensongère de parler de quelque chose qui ne répond pas en bouche, quoi. Donc il vaut mieux parler du terroir, même si c'est plus compliqué.
Vous avez récemment construit un chai bioclimatique. Qu'est-ce que ça apporte en plus?
Alors, qu'est-ce que ça apporte en plus? Moi, j'ai remarqué que, disons, le bien-être des levures et des bactéries qui vont faire spontanément transformer mon jus de raisin en vin, je me suis quand même dit, si elles étaient dans un endroit un peu plus feng shui, un peu plus agréable, c'est comme nous, dans une maison en bois dans la campagne, on est a priori un peu mieux dans notre tête et dans nos corps que dans une maison métallique empilée dans un milieu urbain et pollué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre heureux et qu'on n'y est pas bien, mais ça aide. Voilà. Alors quand on est complètement sentimé en plus, c'est quand même éventuellement un petit plus, voire un gros plus. Et c'est vrai que ce nouveau chai qu'on a essayé de travailler avec des matières naturelles et dans un fonctionnement énergétique le plus respectueux possible, je remarque aujourd'hui que tous les bobos qu'on reproche facilement au vin naturel, je les vis de moins en moins, voire plus du tout. Les problèmes de fermentation, de piqûres, de vin déviant, de tout ça. Et j'arrive à sortir ma production sans soufre, sans rien, et que c'est bon. Donc voilà.
Est-ce que c'est une étape, une nouvelle étape? On a déjà eu l'occasion de dire que l'Alsace était précurseur, était en avance sur l'approche bio-biodynamie. Vous l'avez dit dans les années 90 déjà, un peu comme le Jura peut l'être. Et donc là, c'est une étape, une nouvelle étape dans cette direction-là, d'être plus près de la nature, plus près de la plante, jusqu'à parler de feng shui pour les levures. Même les gens du Jura nous ont pas amené jusque là. est-ce que c'est pour vous, ça a l'air naturel en fait d'aller dans cette direction-là?
Ça m'a paru naturel parce que je me suis posé la question pour moi-même et que je me suis dit. Les levures et les bactéries étant des êtres vivants encore plus sensibles et nous on a notre intellect et notre affect qui va nous diriger, il va nous influencer, mais eux je pense un peu moins, donc ils sont beaucoup plus sous l'instinct et donc pour moi ils pouvaient que être réactifs à ça, et donc oui, c'est probablement une prochaine étape dans la réflexion de faire un grand vin et un vin qu'on a du plaisir et de la buvabilité. Et puis en plus, moi, il y a toute la problématique digestive qui me turlupine quand même, parce que avec tous ces problèmes d'intolérance issus des produits industrialisés, gluten, lactose et compagnie, et derrière, on nous dit qu'il faut prendre des probiotiques, alors que c'est finalement beaucoup de levures et de bactéries. On parle de c'est la grande mode, des produits fermentés, les légumes fermentés, les poissons fermentés et tout ça. Et je me dis, bah oui, mais si on peut garder nos levures et nos bactéries en évitant de filtrer et de les tuer par le soufre, peut-être que cette nourriture gustative qui est les vins qu'on fait va nous apporter aussi quelque chose à nous et va nous améliorer notre digestion, notre bien-être. Et puis je pense que c'est déjà le cas, parce que ça fait penser, mon importateur italien, il a fait une étude sur le taux d'alcoolémie d'un groupe de gens de façon assez scientifique, enfin même très scientifique. Oui, il voyait bien que le taux d'alcoolémie baissait beaucoup plus vite chez quelqu'un qui buvait du vin sans intrants. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans nos corps. Et ça, je pense que c'est aussi une prise de conscience globale de la population, ou du moins de celle qui aime nos vins. Ok, il y a le plaisir, il y a le goût, il y a l'esthétique, il y a tout ça, mais il y a aussi ce que ça... On le met quand même en nous, on le met dans notre corps, et je pense que c'est important de tenir compte de ça, quoi. Et donc, oui, voilà, le feng shui, les levures et que l'on met dans notre corps et qui vont nous aider à digérer, moi, je trouve que ça, c'est quand même important, quoi. Ça,
on vous rejoint, ouais. Ouais, en effet, c'est important.
Et est-ce que vous voyez, bon, on voit les vignerons, je dirais, bio-nature évoluer, est-ce que vous voyez l'administration évoluer aussi? Parce qu'on... Souvent, on dit, enfin, les vignerons disent, c'est parfois difficile de pouvoir imposer ou de pouvoir faire librement, on va dire, ce qu'on a envie de faire. Est-ce que vous voyez aussi l'administration bouger dans ce sens-là?
Je ne sais pas si elle bouge, mais en tous les cas, en Alsace, je vois qu'il y a une forme de tolérance qui se met en place et que peut-être aussi parce que je suis assez actif. Pour ne pas être seul dans ces convictions-là, parce qu'on a la chance en Alsace d'avoir beaucoup de vignerons en biodynamie et pas mal de gens qui se posent la question des vinifications naturelles, et que du coup j'organise un salon au mois de mai. Enfin voilà, on essaye d'avoir une existence sociale, et du coup quand on est déjà un groupe, c'est déjà un peu plus difficile de nous attaquer peut-être frontalement que s'il y a un pauvre gars qui veut essayer de révolutionner le monde au milieu d'une mer de gens qui ne le comprennent pas. Donc on a cette chance-là et je travaille à ça aussi. Et du coup, aujourd'hui, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. On pourrait vraiment nous embêter plus.
Et... Voilà. Après, voilà, c'est l'association des vins libres d'Alsace, hein, quand même, ça. C'est ça le nom exact?
Oui, ouais. Oui.
Donc c'est militant, quoi. Déjà dans le titre, c'est militant, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est militant, c'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas dit que pour autant, on ne supportait pas les collègues qui n'ont pas fait ce choix-là. Moi, je prône régulièrement la diversité au sein de ma commune, parce que moi, je suis quand même content quand le vigneron voisin, même s'il met du glyphosate, je puisse lui dire salut et puis me répondre par un salut, et que si j'ai... Et que si j'ai mon tracteur en panne, qu'il vienne me dépanner, parce que c'est un collègue, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui essaye de faire du mieux qu'il peut, et probablement que son gamin joue avec le mien à l'école, et que on vit ensemble. Donc essayons d'avancer ensemble, même si chacun prend
une voie différente,
le temps qu'il a besoin de prendre, et à ses contraintes économiques et son histoire, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème.
Puis vous,
voilà.
Vous développez aussi l'entraide avec les vins pirouettes, c'est ça? C'est l'idée, c'est d'aider les vignerons qui veulent s'installer en bio pour les accompagner, tout simplement. C'est ça?
Oui, on a la chance en Alsace d'avoir beaucoup de vignerons bio, mais que souvent, ils n'ont pas l'énergie commerciale ou l'audace de vouloir vinifier sans soufre ou envie de mettre, enfin, n'ont pas de connexion avec un réseau professionnel où il y a aujourd'hui une demande pour alimenter dans des vins comme ceux qu'on aime. Et donc, je trouvais ça frustrant que d'un côté, il y ait des vignerons qui sont amoureux de leur vigne, qui sont heureux toute l'année dans leur exploitation. Et de l'autre côté, il y a des gens, des distributeurs dans le monde entier qui en voudraient. Et qu'en fait, au milieu, le vigneron qui n'est pas commerçant, qui n'a pas peut-être la tchatche ou l'audace de faire des vins sans soufre parce qu'il a peur, parce qu'il doute, du coup, il reste dans son coin et on finit par l'oublier, ils finissent par avoir des difficultés économiques et je trouve ça frustrant parce que ça fait que du coup, au bout d'un moment, il y a des phénomènes de concentration où certains vignerons deviennent de plus en plus gros. D'ailleurs, moi, je suis passé de 6 hectares à 12 et à bout d'un moment, je me suis dit stop, là, je vais où, là? C'est toujours plus d'investissements, plus de bâtiments, plus de personnel, plus d'administratifs. Donc, je préférais baisser ma surface pour faire bien les choses et faire le trait d'union entre certains vignerons qui ont envie, mais qui peut-être osent pas ou savent pas et derrière des gens passionnés par les vins et qui sont contents de pouvoir y accéder. Quoi.
Oui, on retrouve dans l'approche ce qu'on avait évoqué un peu avec Laureline Laborde, la notion d'entraide entre les vignerons bio et d'apporter aussi son savoir-faire. C'est ça qui est génial, c'est plus la notion de... Dans beaucoup d'endroits, le vin, c'est du secret, on ne dit surtout pas comment on fait. Et puis, il y a l'approche plutôt partage et donner son expérience pour donner tout simplement aux autres. Quoi.
Oui, je retiens cet élément-là et le fait de pas nécessairement opposer les chapelles, mais plutôt donner envie d'aller vers les choses qui sont vos convictions, le vin nature, les vinifications naturelles, sans forcément porter l'opprobre sur ceux qui ne le font pas, mais plutôt les inviter à opérer cette transition vers quelque chose de plus naturel.
Tout à fait. Oui, c'est ce qui m'anime et me motive et en plus, il y a pas de problème de concurrence après, parce que en fait, chacun fait son vin avec une telle singularité parce qu'il le fait avec ses tripes et il le fait avec son être entier et du coup, il y a suffisamment de différence entre les produits pour qu'ils ne se fassent pas spécialement concurrence, quoi. Donc pour moi, il y a aucune ombre et du coup, il y a aucun secret par rapport à ce que vous disiez avant. Je veux dire, pour moi, j'accueille volontiers tous ceux qui le souhaitent pour échanger, accumuler du savoir-faire et se dire les choses et avancer, quoi. Donc, plutôt que, les secrets des super assemblages qu'il ne faut surtout pas révéler, tout ça, c'est au monde des industriels, probablement.
Alors, à part la chartreuse, parce que ça, quand même... Bon.
Pardon ?
À part la chartreuse, non mais ça c'était juste... Qu'est-ce qu'on met dans la chartreuse, voilà,
on ne le saura jamais.
136 plantes différentes, quelque chose comme ça.
Merci Christian Binaire, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On va dire qu'on peut vous retrouver donc à Hammerschwihr, en Alsace. On peut venir déguster au domaine, hein, j'imagine.
Oui, il vaut mieux prendre rendez-vous, c'est plus simple.
Il y a un site internet qui est vraiment très bien fait, et ce n'est pas toujours le cas, celui-là est très bien fait,
transparent.
On apprend plein de choses, on a vraiment une idée de la philosophie qui est derrière le vin. J'aime bien votre adresse, en plus c'est 2 rue des Romains, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette adresse. Et à Hammerschwihr, en Alsace, vous parliez d'un salon, au mois de mai, comment ça s'appelle et c'est quand ?
Alors ça s'appelle le Salon des Vins Libres, tout simplement, et c'est le 5 et 6 mai. Au château de Kinsheim, qui est donc pas à deux pas du domaine. Et donc, on est une bande de vignerons historiques qui avons fait des vins comme ce dont on a parlé ce soir, où on invite toute une génération aujourd'hui d'Alsaciens qui se posent la même question. Et donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de vignerons qui font au moins 60% de vins d'innature. Et donc, c'est quand même plutôt bien. Et on invite aussi une quarantaine de vignerons d'autres régions de France et cette année d'Espagne, avec de la gastronomie bio, avec un repas gastronomique le samedi soir. Enfin voilà, une ambiance de fête parce que c'est peut-être un des seuls salons organisés uniquement par des vignerons et on fait ça pour pour faire avancer le schmilblick et puis surtout pour faire la fête entre nous. Voilà, et bah, vous y êtes tous les bienvenus.
Bah merci, ça fait en tout cas une excellente raison d'aller faire un tour en Alsace, cette région magnifique, d'aller goûter des bons vins et rencontrer des vignerons qui, comme vous, travaillent voilà, de manière naturelle et puis de si belle façon, parce que ce pinot noir qu'on a dans les verres, voilà, c'est quand même une vraie découverte. C'est un superbe vin. Voilà. Félicitations à vous pour ce travail-là. Et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse...
Je vous en prie, merci de cette belle initiative, parce que on a aussi besoin de vous pour relier l'info et faire avancer les choses. Pour que cette petite révolution tranquille, et j'insiste bien tranquille, s'opère, et pour que demain, on ait moins de problèmes de santé et moins de tous les problèmes de notre société actuelle. Parce que je pense que si chacun, par son acte d'achat et de consommation, fait un petit pas, ben on ce sera mieux pour tout le monde.
Eh ben,
donc merci.
On ne peut pas être plus d'accord avec vous. On va volontiers finir sur ces mots. Merci Christian Binaire.
À
bientôt. Continuez comme ça.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Eh ben, écoutez, hein, voilà encore une belle rencontre de vignerons. Je dis ça à chaque fois qu'on a un invité, mais c'est vrai, c'est les mots qui me viennent naturellement.
Il est engagé, quoi.
Ouais, engagé, militant, avec une vraie conscience de vin nature et même au-delà, j'ai envie de dire, avec cette approche. C'est le total. Voilà, c'est l'approche totale, naturelle.
L'approche probiotique du vin.
L'approche
probiotique.
Et cette conscience autour de la digestion et la digestibilité des vins, c'est aussi quelque chose qu'on avait déjà abordé un petit peu avec Pierre Auvernois.
Oui.
Il disait que ce qui faisait du mal, c'était le soufre, et que quand on enlève le soufre, on a moins mal à la tête le lendemain.
Il parlait même de ces dégustatrices japonaises qui disaient que c'était de la nourriture.
Ouais.
c'est de la nourriture, en fait. On mange en même temps, mais on rejoint cette idée de levure, de diversité. Microbienne aussi pour l'humain et pour l'intestin et pour la vigne et pour tout quoi.
Ce pinot noir, si on doit le comparer à d'autres types de pinot noir, est-ce qu'il, pour vous, il exprime quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le pinot noir qu'on a goûté en Loire par exemple, ou les Bourgognes qui sont les pinots noirs les plus célèbres?
Bah là, l'originalité, c'est peut-être un petit peu le côté fumé qu'on a en fin de bouche qui est assez surprenant. Mais...
Très différent de effectivement du Sancerre qu'on a eu la semaine dernière.
Moi, rien à voir. Enfin,
il y a
même
du
cépage,
fruit. Il y a vraiment la même impression de fruit, mais effectivement là, les notes fumées sont vraiment différentes là pour le coup.
Plus présentes.
Est-ce que... Même en bouche, hein. Ça reste un peu, ça tapisse un peu le palais. C'est...
Est-ce qu'il est bon à boire maintenant ou c'est un vin qu'on peut laisser un petit peu en cave patienter?
Moi, je dirais à boire maintenant.
C'est un plaisir immédiat.
Ça se garde un peu 2-3 ans, c'est encore
facile. On aurait dû lui poser la question. Mais,
oui.
Mais pour moi, effectivement, c'est des vins qui sont tellement jouissifs maintenant, avec cette explosion de fruits, que je ne vois pas ce que le temps pourrait leur apporter de
plus. Dire...
Je ne sais pas s'il gagnera beaucoup avec le temps.
On peut dire les deux, en fait. On le boit maintenant et on en garde un petit peu et on continue à le goûter.
Après, quand il reste un peu en bouche, je sais pas, alors peut-être que je pars loin, mais il y a une petite note, je ne sais pas si c'est vanille, caramel, enfin, il y a quand même un côté un peu gourmand, en fait, au-delà du fruit, quoi, mais il y a un côté un peu, je trouve, voilà, rond, caramélisé, je ne sais pas comment l'exprimer, au-delà de la vivacité du fruit qui est présente dans notre fumée. Je trouve qu'il y a ça en plus, mais là, je pars loin.
Ça y est, il est parti. Ben voilà, écoutez, hein, c'était une nouvelle étape sur la route des vins d'Alsace. Cette belle bouteille dont on dira aussi un mot, cette flûte d'Alsace si caractéristique, cette bouteille très effilée en hauteur. On va continuer, évidemment, et puis on va se réserver pour la fin du cycle les deux dernières étapes. Deux cépages blancs, les stars du vin alsacien, le Riesling et le Gewürztraminer, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, le Gewürztraminer avec un autre vigneron, Vincent Flight, qu'on va appeler et avec qui on va échanger sur son vin, et puis on terminera avec une comparaison de deux Riesling, voyez-vous. Je termine en disant que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @laterreaboire, N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, et puis à nous interpeller, à commenter les différentes publications qu'on fait. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, sur la page tout simplement La Terre à Boire. Et puis ce que vous pouvez faire, si vous êtes sympa, si vous aimez cette émission, c'est d'aller sur Apple Podcast et mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir, ça fait énormément plaisir aux podcasteurs, ça nous aide dans le référencement sur cette belle plateforme qu'est iTunes, ou plutôt Apple Podcast comme on l'appelle aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez 5 minutes, ça prend vraiment, mais même pas 5 minutes, ça prend 30 secondes sur un smartphone, sur un ordinateur, d'aller mettre quelques étoiles. Merci Patrice, merci Hélène, merci Laurent.
Merci.
Merci.
Et bien on se retrouve pour la prochaine étape, la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye.